CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, nous allons voir si vous êtes, si nous sommes, des occasions de chute pour les autres. On commence tout de suite dans l'accusation.
C'est l'émission proche-pied.
Bonjour à tous et bonjour à notre invité, Samuel Grondin.
Bonjour.
Bienvenue
bonjour.
Parmi nous.
Bonjour. Merci.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Très très bien.
Très bien. Bienvenue en tout cas sur le plateau de Bonjour chez vous. On est ravis de t'avoir. Tu fais partie de l'équipe pastorale de l'église Extravagance à l'île de la Réunion.
Qu'on salue
parce qu'on aime beaucoup l'île de la Réunion et l'église Extravagance.
J'ai un confrère réunionnais avec nous.
Exactement. Est-ce que vous allez parler créole
aujourd'hui? Même du soleil.
On va essayer.
Mon créole est rouillé.
Ah non, tu l'as jamais eu, chérie.
Chut, t'es la Réunion.
Donc aujourd'hui, tu vas faire une rubrique famille, Samuel. De quoi tu vas parler en résumé dans cette rubrique?
Je vais parler de comment on glorifie Jésus dans notre famille.
Ah, ça c'est bien parce qu'il faut qu'on le fasse. Hein.
Si on doit être
des témoignages, c'est premièrement dans notre famille.
Exactement.
Donc tu vas nous en parler tout à l'heure. Tu es papa de 3 enfants, tu as une merveilleuse épouse, une belle famille.
Merci beaucoup.
Vraiment, une très belle famille. J'ai vu des photos. Tu es aussi, avant toute chose, un évangéliste. Vraiment, tu parcours les rues les églises, les pays. Tu vas un peu partout, en fait, et tu vas témoigner de Jésus-Christ et tu vis de très belles choses dans ton ministère.
Amen.
Donc, on est content de t'avoir avec nous.
Merci.
Anne, on va commencer cette émission avec toi. C'est toi qui fais la pensée du jour aujourd'hui.
Allez.
Ça va? Tu te sens d'attaque?
D'attaque.
T'es inspirée?
D'attaque.
Allez, on commence avec la pensée du jour.
Il y a un cliché que nous devons absolument évacuer de nos pensées, c'est que le chrétien ne vit pas sa vie pour lui-même. Ça semble une affirmation complètement folle, au siècle de l'individualisme, et nous aimons penser que Dieu s'occupe de nous, pour nous seuls, dans notre petite bulle. Mais cependant, il y a une dimension de la vie chrétienne qu'il ne faut jamais oublier, c'est que nous ne sommes pas seuls. Mmh. Nous avons pour vocation de vivre entourés de gens, n'est-ce pas, Aurélie? Et la façon dont nous allons mener notre vie chrétienne va avoir une influence sur ces personnes immanquablement. Et c'est pas juste un effet collatéral, c'est le cœur même de notre vocation. Alors, quelle influence exerçons-nous sur les autres? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Sommes-nous des bâtisseurs ou des destructeurs? Alors tout le monde en cœur va me répondre
« Des bâtisseurs,
des bâtisseurs !» Mais bien sûr. Et là, je vous dis, en êtes-vous absolument certain? Le prophète Malachi, dans Malachi 2:8, nous rapporte les paroles que Dieu adresse aux hommes religieux. Il dit ceci « Vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. » Alors, ce sont des hommes religieux qui font tout bien, qui cultivent leur irréprochabilité, et pourtant, Dieu leur fait un reproche terrible, suivi de conséquences épouvantables. Il leur dit « Je vous rendrai méprisable aux yeux de tout le peuple ». Alors, nous sommes tous conscients que nous pouvons avoir une excellente influence par notre modèle et laisser Dieu bâtir des vies au travers de notre témoignage. Mais nous pouvons aussi, malheureusement, être une occasion de chute par notre rigidité, par notre intransigeance, et détruire ce que d'autres ont bâti par leur modèle, par leurs soins pastoraux fidèles, par leurs encouragements. Alors, combien de gens plus faibles dans la foi ont été littéralement déroutés à cause de l'intransigeance de quelques-uns qu'ils regardaient pourtant comme des modèles à suivre? Paul fait une sévère remise d'aplomb, une sévère mise au point dans Galates 5. Certains semaient le trouble dans l'Église en voulant remettre la circoncision au goût du jour parmi les nouveaux convertis. Et Paul s'est indigné. Il leur a apporté, enseigné à la sueur de son front l'enseignement de l'évangile de liberté, et des gens religieux arrivent par derrière et viennent saper son travail et remettre les chrétiens de Galates sous un joug de servitude. Et il leur dit ceci, « Vous courriez bien, donc aux Galates, qui vous a arrêté? Qui? Et c'est qui a fait ça? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» En gros, c'est qui ces gens-là qui viennent bousiller mon travail dans mon dos, en fait? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Alors il faut, pour notre part, faire bien attention, parce que nous pouvons, nous aussi, détruire la foi de ceux qui nous entourent en étant rigides, intransigeants, secs et légalistes. Dieu nous appelle, au contraire, à bâtir autour de nous des vies solides, et épanouie en Christ par notre modèle de bienveillance, de persévérance à bien faire et d'amour fraternel authentique. Alors aujourd'hui, nous pouvons tous, moi y compris, décider de tout mettre en œuvre pour avoir une influence vraiment bénéfique sur ceux qui nous entourent, puis laisser Dieu comme ça bâtir glorieusement dans la vie des autres par notre témoignage impeccable de l'amour de Christ.
Mmh. Amen. Amen, merci Anne. Bâtir plutôt que détruire, c'est un grand défi parce que parfois en croyant bâtir, eh bien en fait on est en train de détruire. Et c'est là toute la subtilité, c'est que quand on pose des actions qui ne sont pas empreintes de l'amour, qui ne sont pas motivées par l'amour, par la compassion, ben parfois on va avoir des attitudes, alors oui, qui vont être parfois complètement extrêmes ou complètement laxistes à l'inverse, qui vont laisser les gens faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, dans des circonstances compliquées. Et en fait, on peut perdre des gens par notre attitude, par nos beaux discours ou nos discours qui vont justement avoir un effet totalement contraire. Et on a une responsabilité en tant que chrétien. On doit être des représentants de Christ sur la terre et notre attitude, notre comportement peut malheureusement avoir une conséquence d'élévation ou de chute chez les autres. Notre verset du jour est dans 1 Corinthiens 10 au verset 32. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Pourquoi Paul insiste en dissociant les Juifs, les païens ou autres? C'est parce qu'en fait, souvent, on est empreint d'une culture. Et notre culture va faire qu'on va peut-être des fois changer un petit peu la couleur de la Bible, la couleur de ce que dit la Bible et de l'annonce de l'Évangile, avec un filtre de notre culture, et on peut être une occasion de chute pour les autres juste parce qu'on est une rigidité sur une forme de culture en disant, ben voilà, moi, chez moi, on a toujours fait comme ça, dans mon église, on fait toujours comme ça, et puis on peut malheureusement perdre des gens de cette façon-là.
On confond souvent, on confond souvent les enseignements bibliques avec des façons de faire qui sont même parfois qui remontent à plusieurs siècles. Il faut bien, je vais pas dire qu'il faut toujours être dans l'introspection, mais faut souvent se demander si ce qu'on fait, ben, on le fait parce que vraiment c'est écrit dans la parole de Dieu ou parce que c'est une façon de faire. Mm-hmm. Et quelquefois, et même souvent, c'est parce qu'on a été très rigide sur des principes qu'on a brisé la foi d'autres gens autour de nous.
Ouais. Mm-hmm. Ce qui se passe, souvent, c'est pas pour défendre les gens qui font ça, c'est que quelquefois, quand tu viens de donner ta vie au Seigneur, mais t'es vraiment centré sur toi et tu es centré sur ta relation avec Dieu. Du coup, dès que tu vois quelqu'un qui fait un truc qui est comme un peu en dehors de la parole, mais là, tu te lèves comme non, mais tu ne peux pas faire ça et tu ne te rends pas toujours compte que cette attitude, en fait, n'est pas empreinte de la grâce de Dieu et que ça peut être une occasion de chute, en fait, pour les personnes. Mais quand tu grandis avec le Seigneur, quand l'amour de Dieu commence à remplir ton cœur, mais tu réalises, en fait, ce que Anne disait dans ta pensée, que dans la relation avec Dieu, tu n'es pas tout seul. Il y a des personnes autour de toi. Et parce qu'il y a des personnes autour de toi, parce que cet amour de Dieu te remplit, en fait, tu commences à considérer aussi ton frère. Tu n'es pas juste dans la verticale, mais l'horizontale aussi commence à prendre plus de place. Et là, tu vas réaliser que, ah, mais peut-être, il faut que, à cause de mon frère, à cause du fait qu'il existe aussi, mais je dois marcher dans l'amour. Et ça implique considérer les autres que de faire ça.
Exactement.
Ouais, tu parlais des leçons de morale. Et ça me rappelle, moi, j'avais un membre de ma famille très respecté, que j'allais chez lui quand j'étais petit. Et chaque fois que j'allais chez lui, c'était les leçons de morale. Michael, lis ta Bible. Michael, prie. Michael, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et en fait, au lieu d'avoir l'effet que ça devait avoir, qu'il voulait que ça ait, la morale, en fait, a verrouillé mon cœur. Ça. C'est répulsif, en fait. Ça te donne pas envie de venir. Pourquoi? Parce que tu te sens jugé. Et quand les gens se sentent jugés, ils ont envie de s'isoler.
Ouais.
Mais quand ils se sentent aimés et acceptés, ils voient ta lumière. Ils savent que, en tant que chrétien, toi, tu as une vie droite, que tu crains Dieu, que tu te sanctifies, etc. Ils le savent déjà. Le message est écrit noir sur blanc sur nous.
Ouais.
Il n'y a pas besoin de leur dire, toi, t'es. Ils le savent. Mais quand ils savent que la lumière, au contact des ténèbres, n'est pas là en train de frapper, juger, mais au contraire d'aimer comme Jésus avec cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, ça les touche, ça parle à leur cœur et à un moment donné, leur cœur s'ouvre. Et c'est là que, je crois que c'est l'apôtre Jean qui l'a dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.
C'est ça.
Et ce qui m'a touché, moi, c'est pas la peur de l'enfer, c'est pas la crainte, peut-être ça éveille la conscience, mais ce qui m'a touché, c'est pas la loi, c'est pas la punition ni le jugement. Ce qui m'a touché, c'est de voir que Jésus m'a aimé. Mmh. Et l'amour vraiment touche, en fait.
Ouais.
Et les gens doivent voir, comme on dit, notre amour, notre amour, et ne pas se sentir jugé.
Ouais.
Tu vois, l'apôtre Paul, ce qu'il dit à Timothée, dans 1 Timothée 4,12, il lui dit « Sois un modèle ». Mais il ne lui dit pas en loi, en règle. Il lui dit « Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté ». Donc ça, c'est des témoignages de vie. C'est pas des grands enseignements théoriques. C'est juste ta vie qui est un livre ouvert.
Exactement.
Je me souviens, un des premiers pasteurs qu'on a eu comme formateur avec mon mari, il avait raconté son témoignage de conversion, comment il avait connu le Seigneur. Et en fait, c'est pas que quelqu'un lui annonçait l'évangile, c'est que sa mère a rencontré le Seigneur. Et le seul bouleversement de la vie de sa mère a été un témoignage pour lui. Mmh. C'est-à-dire que du jour au lendemain, sa mère, qui était avant dépressive, est devenue joyeuse. Elle passait beaucoup de temps à lire la parole de Dieu. Puis quand elle rentrait dans sa chambre pour lire la parole de Dieu et prier, elle sortait toute joyeuse, gentille, aimante. Mmh. Et donc, pour lui, ça a été évident que c'était ça la voie à suivre.
C'est clair.
Donc, nos témoignages parlent beaucoup plus fort. Et puis, l'apôtre Paul, quand il dit « Sois un modèle », c'est dans des témoignages de vie, dans des attitudes et pas dans des enseignements. Mmh.
La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc de péché, de jugement, de justice. Et c'est fou, mais quand on est avec les gens, si on est avec le Seigneur, si on est focalisé sur lui, si on laisse le Seigneur nous transformer, nous toucher, et que on reflète cette intégrité que Jésus avait, c'est-à-dire que nos pensées, que nos paroles et que nos actions sont alignées, que c'est exactement la même chose, d'une manière ou d'une autre, on laisse place au Saint-Esprit pour qu'il puisse convaincre les gens de leur propre problématique. Et moi, je crois que j'abonde de votre sens à vous tous. Je crois vraiment qu'on ne peut pas, juste par nos grands conseils, nos grandes paroles, convaincre quelqu'un. Moi, je crois que c'est toujours par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous... Si on déclare la parole de Dieu, mais qu'elle est ointe, ça fait toute la différence. Et c'est pour cela que notre témoignage de vie, ce qu'on déclare et que ce qu'on fait soit aligné, ça fait toute la différence.
Exactement, exactement. Puis c'est pas même juste avec une histoire d'évangélisation avec les incroyants.
Tout à fait.
C'est même quand on veut reprendre un frère ou une sœur, la motivation qui est derrière notre attitude, comment on va vouloir prendre peut-être même plaisir à pointer le doigt là où ça fait mal, sur le défaut, sur la petite chose. Mais quelle est la motivation derrière? On le voit sur les réseaux sociaux, il y a des fois des acharnements, des façons de parler, une dureté dans les mots, et on se permet des choses, mais si on essaye d'échanger notre place avec Christ 2 minutes, on se dit, mais jamais Jésus ne se serait comporté comme ça, jamais il n'aurait écrit des telles choses, jamais il n'aurait dit telles choses, il aurait même pensé de telles choses, et on réalise en fait qu'il y a un énorme décalage, et on doit absolument se ressaisir, et vraiment... transformer nos motivations dans ce qu'on fait et comment on le fait.
Puis on peut vraiment briser des gens. Hein. C'est pas juste les offenser de façon passagère. Il y a des fois des gens qui ont eu leur vie complètement, leur vie de foi complètement sapée et qui ont complètement déraillé parce que quelqu'un avait été dur, leur avait fait une remarque de toute façon, il y a tellement d'exemples. Je me souviens, ma petite sœur, quand elle était venue... au tout début de sa vie chrétienne, quand elle commençait à peine à marcher avec le Seigneur, elle était allée en stage à Paris, puis je lui avais dit, tu sais, il y a telle et telle et telle adresse où tu peux aller à l'église. Il y a des églises, tu trouveras de bons enseignements. Le premier jour de semaine où elle est allée, elle était après le travail, donc elle était encore en habit de travail. Elle est arrivée, puis là, elle s'est fait complètement démonter parce qu'elle était en pantalon. Et elle n'est plus jamais... pendant 7 ans, elle a pas remis les pieds dans une église. Donc,
des conséquences, quoi.
Je veux dire, juste pour un pantalon, je veux dire, c'est quoi ce principe?
Ça valait pas le coup.
Ça valait pas la peine.
Mais moi, pense, juste rapidement, parce que quand on est... Parfois, il y a des personnes qui sont dures, mais qui se rendent pas compte, en fait, même que par leur attitude, leur dureté et tout, mais ça peut entraîner justement des choses comme ça. Mais vraiment, la parole de Dieu transforme les cœurs. Et ça, on doit pouvoir se prendre conscience de ça. C'est que la parole de Dieu, alors qu'on est constamment en contact, il y a ce truc dur parfois au-dedans de nous que parfois on ne perçoit même pas, qui va se transformer en fait et qui va faire que de nous, justement, il sorte quelque chose de plus tendre, de plus doux et que cet amour de Dieu puisse se dégager.
Amen. Avant de passer à la rubrique famille, j'ai juste une pensée pour un jeune couple qui nous écoute. Vous êtes fiancés et le garçon dit à sa petite amie, mais on peut coucher ensemble, on peut avoir des relations sexuelles, on va se marier, c'est bon. Et la jeune fille, elle est pas sûre, elle est hésitante. En tant que garçon, en l'occurrence, dans ce que j'ai vraiment à cœur, ne sois pas une occasion de chute pour ta fiancée. Patiente encore quelques minutes, prends le temps d'attendre. Et quand vous serez mariés, tu auras toute la vie pour profiter de ta femme, mais ne sois pas une occasion de chute pour ta fiancée. Voilà, j'avais cette pensée à cœur. Si ça concerne quelqu'un, ben recevez. Samuel, on va enchaîner donc tout de suite avec la rubrique famille. Donc Samuel, aujourd'hui tu vas pouvoir nous exhorter justement à être aussi ces témoignages dans notre propre famille.
Oui, c'est exact, je vais essayer en tout cas. En tout cas, je crois une chose, c'est souvent on dit que la famille c'est le début. C'est-à-dire que c'est là où tout commence. Mais en fait, c'est pas juste là où tout commence. La famille c'est le noyau. C'est de là que tout prend place en fait. C'est-à-dire que même si on peut avoir commencé au début de notre ministère à prendre soin de notre famille, puis après quand on commence à avoir entre guillemets une certaine un certain impact et qu'on commence à être demandé et puis après oublier notre famille. C'est pour cela que je préfère bien clarifier cette phrase. C'était pas juste là où tout commence, c'est là où tout se passe en fait. Et moi je crois que si on arrive à réellement influencer, inspirer, c'est le meilleur mot, je pense, pour ma part, en tout cas, mon épouse, mes enfants, à aimer Jésus, à servir Jésus et à manifester Jésus, ça fait toute la différence. Et Dieu voit cela. Et quand Dieu voit cela, c'est lui qui prend cela et qui dit, OK, maintenant, je veux exposer ça à plus de personnes. Mmh. Et quand il y a un souci à ce niveau-là, il nous ramène. C'est pour cela que moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on soit malléable entre les mains de Jésus. Et qu'on laisse le Saint-Esprit nous inspirer à glorifier Jésus dans notre famille. Et c'est vrai que l'un des premiers points que j'avais à cœur de partager avec vous, c'est le fait de prendre nos propres victoires personnellement, alors que nous sommes là où personne ne nous voit, je dirais, d'accord, nos propres défis qu'on a personnellement. Et en faisant cela, on deviendra une voix pour les autres. C'est une phrase qui fait beaucoup écho dans mon cœur parce que je crois que souvent on lit la parole de Dieu, ok, on voit des principes de la parole de Dieu sur l'importance de se tenir pur, l'importance d'être un exemple, l'importance de faire les choses selon le cœur de Dieu, enfin bref tous les principes de la parole de Dieu et on se rue tout de suite sur on va enseigner ça à quelqu'un, on va le dire à quelqu'un et le problème c'est que quand on fait cela on ne vit pas forcément ce qu'on a lu, parce que la première personne à qui s'adresse cette parole, c'est nous. Et moi, je crois que on oublie que le temps est un allié, que Dieu nous donne le temps pour qu'on puisse justement vivre sa parole, que cette parole-là vienne nous transformer, qu'elle vienne prendre vie en nous. Et quand cette parole prend vie en nous, elle nous active pour que justement on puisse aller voir d'autres personnes qui sont dans ce problème-là et leur dire, écoutez, je vous conseille de faire cela. Et je prends l'exemple ça m'est déjà arrivé dans un témoignage, un ami qui a lutté vraiment avec la pornographie, avec plein de choses comme ça. Il est marié. Et il avait des enfants. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'arrivait pas. Il me dit son problème, c'était qu'il n'arrivait plus à avoir une relation réelle avec son épouse. Son épouse commençait à rester devant la télé. Et il rentrait le soir, ils étaient distants. Il y avait plein de choses qui se passaient. Et puis, il avait beau vouloir lui parler par rapport à cette addiction, entre guillemets, que la télé ou autre chose. Mais ça ne fonctionnait pas. Et je lui ai dit, mais mon frère, j'ai juste une question. Qu'en est-il de tes propres défis? Tu veux inspirer les autres à prendre la victoire? C'est une très bonne chose. C'est ton épouse, je comprends ton cœur. Mais est-ce que toi, tu prends tes propres victoires? Est-ce que toi, tu prends tes propres victoires? Avec l'aide du Saint-Esprit. Bien sûr, c'est jamais par nos propres forces. Et du coup, ce frère-là, c'est comme si il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Puis il me dit, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais j'arrive pas. Je dis, oui, mais écoute, mon ami, concentre-toi là-dessus. Change ça. Fais la différence à ce niveau-là. On va prier ensemble. Je serai là à tes côtés. Je vais t'aider au maximum. Si je peux être un oreille, si je peux être quelqu'un qui peut t'aider à ne pas tomber. Fais attention à cela. Et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que ce gars-là, une semaine plus tard, durant cette semaine-là, il s'est vraiment repenti devant le trône de Dieu. Il a commencé à régler ses problèmes personnels. Et il s'est rendu compte qu'en faisant cela, ça avait changé l'atmosphère dans sa maison.
Bah oui.
Parce qu'il a commencé à glorifier Jésus, parce qu'il a commencé à dire, Seigneur, je veux m'aligner avec toi. Et donc, je vais régler ces problèmes-là. Je te fais confiance maintenant, tu m'aides là-dedans. Et en entrant dans ce processus-là, bien sûr, tout n'a pas changé d'un coup. Il y a certaines choses, oui, mais au fur et à mesure, comme il entre dans un processus de guérison, de repentance, Dieu a commencé à se glorifier dans sa maison. Et il s'est dit, mais c'est bizarre, mais quand j'ai commencé à parler à mon épouse, c'est comme si que j'ai attiré son attention. C'est comme si quelque chose qui s'est passé. Et là, du coup, ça a changé totalement. Un mois plus tard, du coup, j'ai pris des nouvelles un peu régulièrement. Ouais. Un mois plus tard, c'était totalement, totalement différent.
Wow,
il arrivait à avoir des moments de famille, des moments de couple. Mmh. Parce que, en quelques instants, en prenant ses propres victoires, il a réussi à les partager avec les autres. Mmh. C'est une image forte. C'est, tu prends tes victoires et tu es capable ensuite de prendre cette victoire et de la partager avec les autres. Et c'est beau, en fait. Et j'ai réalisé que si on était plus comme cela, j'entends souvent, malheureusement, des ministères qui, ou des gens, des chrétiens qui prêchent et qui font croire sur les réseaux sociaux, qui sont des grands prédicateurs et qui touchent des milliers de personnes et qui ont un impact, je dirais, ou qui sont écoutés par des milliers de personnes. Et quand je vois le style de vie, que j'apprends le style de vie des personnes, je me dis, mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de poids, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'onction, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autorité, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'impact réel dans le cœur des gens. C'est parce qu'on n'est pas vrai, on n'est pas intègre. Et du coup, je me dis, mais Seigneur, change-nous. Et c'est pour ça que le milieu de la famille fait toute la différence. Parce que ces gens-là, quand tu regardes vraiment, la première chose que je me pose comme question quand je vois ça, je dis, mais comment est son atmosphère de famille? Et à tous les coups, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la famille.
C'est une bonne question à se poser, ça, dans notre propre famille. Quelle est l'atmosphère qui règne dans notre maison, dans notre foyer?
Et maintenant, j'aimerais juste encourager avec un verset dans Romains 5, 3. Et c'est un verset qui aussi m'a beaucoup encouragé pour ceux qui se disent, OK, je suis dans ce processus-là et je me repens maintenant, je veux vraiment changer, je veux vraiment faire la différence. On va lire ensemble ce verset. La Bible dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Et moi, je crois une chose, c'est que même si c'est difficile, même si c'est affligeant de se dire, OK, il faut que je change, il faut que je me fasse violence pour changer ça, pour arrêter cela. Ça coûte. Ça nous demande de faire un effort sur nous-mêmes, sur notre temps, sur plein de choses, de sacrifier des choses, de mettre notre orgueil de côté, de s'investir,
ça coûte,
en fait.
Quoi, ouais.
Ça nous coûte. Et en fait, en faisant cela, Dieu va nous donner cette persévérance. Et quand on commence à persévérer dans cette directive, dans cette direction, quelque chose se passe. Dieu nous conduit à la victoire. Et ce qui m'a touché dans ce passage, c'est que ce n'est pas une question, il ne met même pas l'option échec.
Oui, c'est vrai.
C'est pas la victoire ou l'échec dans l'épreuve.
Ouais.
C'est la victoire dans l'épreuve.
Ouais.
Celui qui persévère réellement, en étant dans la parole de Dieu, en s'alignant à Dieu, en disant, Seigneur, je te fais confiance et je commence à faire un effort, quelque chose va changer. Tu auras la victoire sur ton épreuve. Et en plus de cela, cette victoire va produire l'espérance. Et vraiment, je voulais vraiment encourager le maximum de personnes à faire cela, à vraiment se positionner pour dans un premier temps glorifier Jésus, mais continuellement glorifier Jésus dans notre famille. Et moi, je crois que la famille est aussi un lieu où on peut savoir justement où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est réellement, en fait? Au bout de quelques années, au bout de quelques temps, quand on parle à notre épouse, quand on parle à nos enfants, quand nos enfants nous parlent, les messages qu'ils transmettent. En fait, où est-ce qu'on en est? Vraiment, où est-ce qu'on en est? Bien sûr, on va devant le trône de Dieu, on prie, on dit, Seigneur, aide-moi à réaliser, à ouvrir mes yeux. Mais aussi, on voit ce qui se passe autour de nous. Les personnes les plus proches de nous nous donnent une indication réellement où est-ce qu'on en est. Dans notre vie spirituelle, dans notre vie avec Christ.
Mm-hmm.
Voilà, je voulais vous encourager avec ça.
merci Samuel. Peut-être que tu pourrais juste un tout petit peu détailler rapidement justement comment être cette source d'inspiration au quotidien, parce que c'est sûr qu'il y a des choses à régler, mais comment au quotidien on peut justement être cette source d'inspiration pour la famille dans les petites choses comme dans les grandes, parce que là tu nous parlais de ces défis. Donc oui, on a des défis, mais admettons on a réglé la plupart des défis dans notre vie. Comment on continue à inspirer notre famille, notre femme, nos enfants, notre mari?
Moi, je pense que c'est dans notre humilité. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est l'unique réponse, mais c'est celle que je reçois maintenant. Et je pense que le fait d'être humble et de montrer cette attitude de qu'on s'humilie devant Dieu et qu'on est constamment en train de se remettre en question devant son trône avec sa parole, en posant des questions, en donnant la liberté à l'autre de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Et enfin, en créant ce genre d'atmosphère-là, ça fait toute la différence. Et ça inspire justement la famille. Ils peuvent dire, OK, papa, oui, il n'est pas parfait. Mon mari, oui, il n'est pas parfait, mais il cherche Dieu, il fait des efforts, il veut vraiment faire la différence. Mmh. Et donc, on va l'encourager.
Ouais.
Et donc, nous-mêmes, on va faire des efforts. Mmh. Et ça fait toute la différence.
Ouais.
Moi, je crois vraiment ça.
Amen.
Et cette humilité devant le trône de Dieu et ce désir vraiment de plaire au cœur de Dieu, ça ramène à la crainte de Dieu.
Mmh.
Et tout cela, ce sont des ingrédients qui vont vraiment, je crois, empuissancer les familles, encourager les familles, bâtir les familles. Et en fait, plus la famille est bâtie, plus le reste se bâtit. Plus la réputation de Christ se bâtit.
Ouais.
Parce que la réputation de Christ est bâtie par une réputation de famille, mm-hmm. à cause de notre famille. Parce qu'il a choisi la famille, de se manifester par une famille. Et moi, c'est vraiment ce que je crois. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Si, t'as tout à fait répondu à la question. Tu veux prier rapidement pour les familles, justement, ces maris, ces épouses qui ont des défis puis qui n'arrivent pas forcément à
les régler. Bien sûr. Seigneur, maintenant, je prie et je te remercie pour ta présence, pour ta paix maintenant. Et je sais que beaucoup de personnes qui sont en ce moment même dans ce cas-là sont vraiment dans cette attente maintenant. Je prie pour qu'une repentance réelle prenne place dans le cœur de ces personnes, Père, dans le nom de Jésus. Et je prie parce que, Seigneur, tu es tellement bon. Parce que, Seigneur, c'est ta bonté qui nous pousse à la repentance. Et je prie maintenant pour que, Seigneur, ta présence, ton amour, ta paix puissent être libérées dans le cœur de ces personnes-là, qu'ils puissent trouver une personne mature à leur côté qui pourront être une oreille pour eux, bien sûr, homme, femme. Seigneur, que chacun puisse avoir un appui, mais en même temps, trouver leur appui en toi, Jésus, et avoir cette force, ce courage de dire, OK, je veux changer, Seigneur, je veux faire la différence maintenant et je vais m'investir là-dedans avec ta force, avec ta parole, avec ta présence, Saint-Esprit. Et je prie maintenant, Seigneur, que ceux qui sont face à un mur, face à quelque chose qui les empêche de bouger, d'être en mouvement, qui les fige sur place, Père, que quelque chose se passe dans le nom de Jésus-Christ, que ta présence, que ton onction soit libérée dans leur maison maintenant et qu'ils expérimentent le miraculeux, Père. Que maintenant même, ils puissent réaliser qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la victoire. Que si nous persévérons dans l'épreuve, tu nous conduis à la victoire. Alors merci maintenant, je libère cela dans l'atmosphère, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen, amen. Merci beaucoup Samuel pour cette belle rubrique famille qui nous pousse à être une source d'inspiration pour notre famille. Merci beaucoup. Tu nous rappelles des choses qui sont essentielles, être avant de dire aux autres d'être. Et
ouais.
c'est un très très bon message. Merci. Tu seras avec nous encore jeudi pour l'émission de jeudi. Tu feras la pensée du jour. Pasteur, j'ai
amen.
Une question. Mais nous, on va se retrouver demain, on va continuer un petit peu dans la même lignée qu'aujourd'hui. Donc, on a parlé de ne pas être une occasion de chute aujourd'hui. Demain, on va voir comment notre attitude face à la tempête peut être une occasion de témoignage, à l'inverse de l'occasion de chute, un témoignage pour ceux qui nous entourent. Notre thème sera « Ta confiance en Dieu est un témoignage puissant pour les autres ». Et Anne, tu seras avec nous, tu vas faire une rubrique flashback, tu vas nous parler des frères Wesley.
Oui.
Donc, on a hâte que tu nous en parles, on se retrouve demain. Allez. Et merci à tous et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.